Donc voilà, il est à peu près l'heure. Donc oui, j'ai proposé là pour cette dernière réunion sur les vocations, sur l'appel de Dieu. Alors c'est un petit peu, dans un sens, un sommet, donc avec l'Apocalypse de Jean. Alors comme vous disiez, madame, c'est vrai que ça ressemble un peu à de la science-fiction, mais c'est vrai que l'Apocalypse, c'est ce genre littéraire, si vous voulez. Alors de quoi parle l'Apocalypse ? Ça ne parle pas de la fin des temps, ça parle de la fin des temps, mais nous sommes dans la fin des temps, si vous voulez. Ça parle du présent, ça ne parle ni du passé. Les gens essayent de voir, est-ce que ça parle de l'époque de Néron ? Est-ce que ça parle de la fin des temps ? Pardon ? Souvent, par exemple, dans les sectes, je ne sais pas quoi, on dit attention, soyez bien, allez bien à l'église, surtout donnez beaucoup d'argent. croyez bien ce que le pasteur vous dit, sinon, l'apocalypse va arriver, et puis alors là, ça va chauffer pour votre matricule. Mais ce n'est pas du tout ça, si vous voulez. L'apocalypse, c'est une autre façon de dire l'évangile, de toute façon. Et comme vous dites, c'est un genre littéraire de l'Apocalypse. Et donc, c'est un genre un peu fantastique, avec des dragons, avec des trompettes, avec des anges, avec des visions comme ça. Mais, si vous voulez, d'ailleurs, on va le voir dans le déroulement de ce texte. La vision, c'est-à-dire quelque chose qu'on voit avec ses yeux, éventuellement des choses un peu étranges, ça commence à arriver sur la fin de ce chapitre, avec un personnage qui est avec une robe, qui est au milieu de 7 chandeliers d'or, avec des étoiles, 7 étoiles, donc avec un vêtement blanc comme la neige, des yeux comme d'un feu flamboyant, des pieds qui sont comme un bronze incandescent. Donc c'est versets 14, 15, 16. Voyez ces visions. Bonjour. Il y a une petite feuille, oui. Donc cette vision un peu fantastique, c'est un genre littéraire en fait. Donc là il y a une vision comme ça un peu fantastique, mais on nous dit, vous verrez plusieurs fois au cours du texte, en fait, ce qu'on voit c'est la parole en fait. C'est la parole, c'est le témoignage du Christ, c'est la parole de Dieu qui est donnée. Donc ça nous dit bien que ces visions c'est une autre façon d'exprimer l'inexprimable en fait. D'exprimer la parole de Dieu, d'exprimer... la source de la vie, d'exprimer l'action de Dieu dans le monde. Donc c'est de ça dont on parle, et c'est ça que Jean est envoyé, justement, reçoit pour être envoyé dans le monde, pour porter ce témoignage. Alors je vous propose quand même de lire le texte tranquillement, donc au début du chapitre 1. Alors on va prendre le mot à mot qui est sous le grec, si vous voulez, donc à gauche, pour peut-être des fois c'est... plus facile quand même de comprendre de quoi il est question quand c'est un peu rédigé sur la gauche. Hein. J'ai mis la Nouvelle Bible Second sur la gauche et puis donc après c'est l'interlinéaire grec-français. Alors vous voyez que le premier mot, alors ceux qui décryptent un petit peu le grec quand même, il y a marqué apocalypsis, apocalypse. En dessous il y a marqué révélation. Révélation, ça veut dire... il y avait quelque chose de caché, dévoilement, voilà. On enlève le voile, il y avait quelque chose qui était caché, qui était sous un voile, et c'est dévoilé. Alors qu'est-ce qui est dévoilé ? Bon, on va nous dire que là, c'est les choses qui vont arriver. Donc vous voyez que ce qui est dévoilé, c'est des événements, en fait. C'est des actes de Dieu. Et c'est ça dont il est question, voilà. Donc ce qui est dévoilé... ça peut sembler étrange, parce que pour nous, Apocalypse, au contraire, c'est un texte qui semble complètement crypté. C'est pas crypté, c'est, si vous voulez, c'est des images qui étaient beaucoup plus faciles à comprendre à l'époque que ça ne l'est pour nous-mêmes aujourd'hui, parce que c'est moins notre culture. Peut-être que si on lisait la fable du corbeau et du renard à des Esquimaux, qui n'ont jamais vu... Bon, ils ont peut-être vu des renards quand même, hein, mais peut-être des corbeaux aussi, d'ailleurs. Oui, je pense qu'il y a des corbeaux et des renards, donc c'est un mauvais exemple, non ? Au Groenland. Il n'y a peut-être pas de camembert dans le bec du... Je ne sais même pas si dans des rennes chez les Esquimaux. Peut-être. Mais enfin, en tout cas, Si vous voulez, voilà, c'est comme ce genre de jeu d'images. Ce n'est pas forcément complètement évident. Ça fait référence à d'autres passages de l'Ancien Testament. Ça, pour nous, c'est plus facile d'aller chercher parce qu'on a maintenant des concordances informatiques. C'était plus facile encore à l'époque parce qu'ils connaissaient plus ou moins par cœur les passages principaux de la Bible, donc ça aidait quand même. Donc apocalypsis, apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe annoncée, ça veut dire dévoilement de la volonté de Dieu, dévoilement des actes de Dieu, donc en fait dévoilement du royaume de Dieu, si vous voulez.
J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de récits apocalyptiques à cette époque-là, ils étaient tous dans le même...
Alors il y en avait, bon, d'ailleurs il y en a dans les évangiles de la bouche de Jésus hein, qui ressemble un peu à ça, et il peut passer à travers ce genre littéraire et puis après raconter une parabole par exemple.
Donc c'était vraiment un genre littéraire.
C'était un genre, voilà, c'était une façon de parler, une façon de s'exprimer, et puis il y en a aussi dans l'Ancien Testament, donc l'Apocalypse s'est beaucoup inspiré de Daniel, de Zacharie, d'Ézéchiel... de ces prophètes un peu tardifs, c'était un peu l'époque, voilà. Alors comme vous dites, ça ressemble à de la science-fiction, ça peut ressembler plutôt à de la science-fantasy, en fait, dans les genres littéraires modernes des romans, ou l'heroic fantasy. C'est des genres littéraires, mais ça continue à parler donc du présent de notre vie, et en particulier du présent de ce royaume de Dieu qui vient, donc nous dit l'Évangile, je dis Jésus dans l'Évangile, à l'intérieur de nous, et entre nous, vous voyez, c'est un bouleversement à l'intérieur de nous-mêmes et entre nous-mêmes dans nos relations. Donc révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu, si vous voulez. Donc la révélation, c'est d'abord Jésus-Christ. Bien sûr, c'est une personne, on va le voir un peu plus loin dans le texte. Il y a une révélation par la parole et on voit Jean qui se retourne pour voir d'où vient la parole. Hein? Ça se voit, bon, c'est au verset 12, c'est le verso de la page que vous avez, hein? Et je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Donc, vous voyez un peu comment ça marche, hein? Il entend une voix, il se retourne pour voir la voix.
Voilà. Il a dit pour constater justement sur...
Pour constater, blepo, c'est voir, constater, voilà, c'est ça, oui. La voix qui me parlait, donc il veut voir d'où vient la voix, qu'elle veut voir la voix. Et c'est ce qu'on dit, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu faite chair, c'est une parole incarnée, c'est une parole de Dieu visible, c'est une action de Dieu visible dans ce monde. C'est la manière d'être de Dieu dans le visible, dans le monde, c'est ce qui révèle finalement. Ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu. On va le voir. D'ailleurs, là, ils en parlent de ça un peu plus loin. Mais il manifeste le royaume de Dieu, il manifeste l'action de Dieu. Mais au-delà de la parole, au-delà des mots qui témoignent de ce qu'il est, c'est intéressant de se retourner, c'est-à-dire de se convertir, hein, littéralement se retourner, épistrépho qui est dans le verset 12, se retourner pour voir la voix, c'est se convertir, se retourner. Littéralement, hein, il y a marqué « repentez-vous, convertissez-vous » dans les évangiles, mais il n'y a pas marqué la repentance, « repentez-vous », on pense, « oh là là, quelle bêtise j'ai fait » et tout, mais ce n'est pas ça. Ou se convertir, bon, ça fait un acte religieux, c'est aller faire une profession de foi, pourquoi pas, on peut demander le baptême, faire une profession de foi, mais l'essentiel c'est un mouvement pour se tourner vers la source de la parole, la source du royaume de Dieu, c'est ça, c'est une orientation de notre vie pour voir la source. C'est ça qui est marqué ici, si vous voulez. Pour ça que révélation de Jésus-Christ que lui a donné Dieu, c'est pas simplement un secret, le secret de la pierre philosophale pour transformer le plomb en or. C'est pas simplement le secret de la recette du Coca-Cola qui est secrète dans un coffre-fort. Non, la révélation, alors ça peut être effectivement une parole, mais au-delà, c'est la source de la parole, qui est Dieu, si vous voulez. Et on peut en avoir une idée déjà en Christ. Hein? Donc, que lui a donné Dieu pour montrer aux esclaves, à ses esclaves. Alors, c'est vrai que doulos, ça veut dire esclave. On n'est pas vraiment esclave de Dieu, on va le voir plus loin, on parle de la grâce. Donc la grâce, c'est ce qui libère les esclaves, dans un sens. Hein. Puisqu'il y a la grâce, on n'est plus menacé, comme peut l'être un esclave. S'il ne fait pas bien ce qu'il faut, on va le fouetter, on va le tuer, parce que le maître a le droit de vie et de mort sur son esclave, non. Donc c'est pas ça, c'est plutôt... Moi, souvent, ce doulos est traduit par serviteur, c'est peut-être mieux. Parce que finalement, celui qui est serviteur, c'est celui qui a envie de rendre service. C'est plutôt ça, parce qu'on est sous la grâce. C'est pas esclave à coup de fouet, c'est pas esclave à coup de menace, c'est même pas, Paul dit, c'est même pas esclave pour avoir un salaire. Hein? On est enfant adopté, donc on est... l'adoption est première, la grâce est première, l'amour est premier, donc ensuite c'est de la bonne volonté pure, puisque tout est donné avant, finalement. Donc serviteurs, c'est des gens qui veulent rendre service, moi j'allais dire plutôt. Hein? Ceux qui veulent rendre service aux côtés de Dieu, avec Dieu, pour Dieu, c'est plutôt ça.
Hein? C'est le culte de Dulli, en fait, finalement, ce que les catholiques appellent le culte de Dulli, le culte des saints. Non?
Sauf que là, là c'est plutôt... oui, parce que quand ils disent la culte de Dulli, c'est, en fait, c'est on honore... un saint en tant qu'il est serviteur de Dieu. C'est comme ça que les catholiques, je ne suis pas spécialiste de la théologie catholique et je ne vais pas vous faire la publicité pour prier Marie ou saint Antoine de Padoue, bien que des fois, quand on perd ses clés, on a envie tout d'un coup de prier saint Antoine de Padoue, saint qui d'ailleurs n'a jamais existé, pas historiquement, paraît-il, mais qui rend bien service quand on a perdu ses clés et qu'on est pressé de partir. Non, mais je rigole. Mais en fait, en théologie catholique, ils ne confondent pas, contrairement à ce que disent les méchants contre le... dire « ouais, c'est idolâtre », ils ne veulent pas du tout. Ils pensent à Marie, ils pensent aux saints, mais c'est un culte de... Ce n'est pas un culte à des sortes de divinités secondaires. C'est à travers, dans la communion avec ces personnes, ils veulent prier Dieu. La prière, elle est bien adressée à Dieu, mais par des serviteurs de Dieu. Bon, chez nous, ce serait exotique un petit peu dans le protestantisme de prier des saints, même de prier Marie, bien sûr. J'allais dire même de prier Jésus. Hein. On prie Dieu seul. C'est ce que nous dit Jésus dans l'Évangile, on prie Dieu seul. Voilà. Mais chacun fait ce qu'il veut. La prière, je pense que ça doit faire sourire Dieu, si je puis dire, qu'on invente. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils m'ont encore inventé? Bon, il prie Marie, il prie saint Antoine de Padoue, mais je pense que voilà, Dieu, il voit ça avec affection, tendresse. C'est pas très grave. Voilà. Donc, pour montrer aux esclaves, aux serviteurs de Dieu, à ceux qui veulent lui rendre service. Voilà. Donc, il y a marqué « Dei, il faut », ce qui doit arriver bien vite. Quand il y a le « il faut » comme ça, « Dei », c'est quoi le « il » de « il faut » ben, en fait, c'est Dieu, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est le plan, c'est la volonté de Dieu. C'est ça, le « il faut ». Chaque fois qu'il y a ça dans les évangiles, dans le grec, c'est Dieu qui est derrière, en fait. Il n'y a pas de « il faut », de fatalité, de destin, de je ne sais pas quoi. Il n'y a pas d'histoire écrite à l'avance. C'est plutôt le plan de Dieu. Qu'est-ce qui doit arriver bien vite ? Ce qui doit arriver bien vite, ben, c'est la venue du royaume, hein, qui tout le temps est annoncé. Le royaume le royaume va arriver, ou alors c'est Jésus qui dit dans l'évangile selon Jean au chapitre 4 à la Samaritaine, voici l'heure vient et elle est déjà là, hein, où ceux qui adorent le Père l'adoreront en esprit et en vérité. Donc vous voyez, c'est le royaume, ce qui doit venir hein, bien vite, ce qui est en train de venir bien vite, c'est le royaume qui est déjà là et qui encore est en train de venir, se développe. Hein. En nous, bien sûr, et puis dans le monde, c'est ça. Dans le monde, ça tarde trop. En nous, ça pourrait aller plus vite. Mais on n'est pas à l'usine, c'est ça. Et donc, et qu'il a signifié. Donc, vous voyez, il y a le SEMA aujourd'hui, c'est le signe, vous voyez. Qu'il a signifié, ayant envoyé par son ange à son serviteur qu'est Jean. Voilà. Donc il a envoyé finalement une révélation, hein. Il l'a signifié, donc il l'a montré à travers des signes, à travers des visions. Cela veut dire que nous aussi, vous voyez, Jésus est un signe finalement. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Voilà. Voilà où Jean dit de Jésus, hein, dans Jean 14.
À propos d'anges, on ne voit pas tellement d'anges. Dans la Bible, il y a celui qui vient faire l'annonce à Marie. Et puis, il y a celui ici.
Il y a des anges qui viennent servir Jésus au temps, à la tentation.
Ah oui.
Je crois qu'il n'y en a pas tellement d'autres bon, qui se manifestent dans les évangiles. Si, il y en a bien sûr à la résurrection, dans le tombeau.
Ah ben oui.
Il y a un ange quand même, il y a un bel ange. Hein, même.
Et au jardin des Oliviers peut-être.
Voilà, c'est ça, la résurrection au jardin des Oliviers.
Ah, oui.
Parce que les catholiques ont tout un catalogue des anges. On n'en parle pas tellement.
Alors ça, ça pourrait, parce que si vous voulez, c'est tout à fait. Bon, alors c'est dans les, justement, c'est dans Zacharie, Ézéchiel, dans ces prophètes un peu tardifs. On voit aussi des anges dans la Genèse, avec Jacob, des anges qui montent et qui descendent.
Et puis il y a ceux qui voient les filles des hommes aussi, tout au début.
Donc, alors oui, il y a... donc voilà, on ne sait pas très bien qui c'est, si c'est des anges, c'est des personnes qui viennent... trouver que les filles des hommes est belle dans la Genèse au début, oui, dans le début du chapitre 3, je pense. Hein. Mais donc les anges, si vous voulez, ce qui est mal traduit, c'est que là, effectivement, il y a marqué Angelou, vous voyez. C'est la troisième ligne au verset, toujours au premier verset, hein, la fin de la troisième, 1, 2, 3, quatrième ligne, Angelou, l'ange. Mais en fait, Angelos, c'est messager. Donc c'est pas clair, si vous voulez, parce qu'ils ont traduit, ils n'ont pas traduit le mot Angelos. Ange. Ils l'ont laissé en grec dans le texte. Alors du coup, c'est trompeur, parce que ça en fait une catégorie d'être, de créature. Mm-hmm. Alors que ce n'est pas une catégorie d'être ou de créature, c'est une fonction, ange. C'est messager. Donc il y a toutes sortes de messagers. Nous, on peut être le messager, un messager de bonne nouvelle pour quelqu'un d'autre. Littéralement, on est un ange, pourtant. Et il ne nous est pas poussé des plumes dans le dos. Enfin, des fois, on... Peut-être pour aller prendre le métro, vaut mieux vos ailes, il vaut mieux les plier un peu bien à plat sous votre chemise. Ça va permettre d'être moins repéré, peut-être, dans le
métro. On n'a jamais parlé des anges dans mon instruction religieuse. Et c'est après les catholiques que j'ai vu là, toutes les catégories, puis dans l'histoire de l'art, bien sûr, qui m'ont stupéfaite. Oui.
Ben, ça parle de nous, les anges aussi. Voilà, on est appelés à être des anges. Mais cela dit, des messagers, il y en a plusieurs sortes. On va le voir un peu après. Il reçoit des messages comment, finalement? Il reçoit des messages par des signes, il reçoit des messages directement par l'esprit, donc je dirais une expérience spirituelle. Mais quand il y a marqué ange, ça pourrait être quelqu'un, par exemple, qui, là, pour nous, Jean, vous voyez, il reçoit cette révélation. Donc c'est un peu comme une vocation, puisqu'il est envoyé pour porter ça, pour porter cette nouvelle aux autres, hein. Donc lui devient ange à son tour, en fait. Il devient ange, puisqu'il va porter, le témoignage. Hein? Donc Jean, au début du verset 2, donc Jean, qui témoigna de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Donc ça veut dire, littéralement, Jean, il devient un ange, puisqu'il vient témoigner de ce qui vient de Dieu. Littéralement, il devient un ange. Pourtant, il ne lui pousse pas des plumes dans le dos. Je pense. Non, c'est une façon de parler. Je veux dire, puis en plus, la traduction, vous voyez, ne nous rend pas service parce qu'ils n'ont pas traduit. Du coup, c'est le traducteur qui pousse à travers cette non-traduction, il pousse à imaginer des catégories de créatures. Alors que c'est dommage, ça parle de nous, en fait, qui sommes des anges. Alors quand est-ce qu'on sait qu'on a été un ange ou qu'on a été un diable, en fait? Ben, on le sait qu'a posteriori, finalement. Si une parole qu'on a dite, elle a produit de la vie ou elle a produit de la mort et de la division et du chaos. Voilà. La parole de Dieu, c'est ce qui crée la vie. C'est ce qui réconcilie, ce qui construit l'humanité comme un corps. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît qu'on a été un ange ou que quelqu'un a été un ange pour nous. Et la même parole, elle peut faire un effet angélique ou un effet diabolique. Ça dépend du moment, ça dépend de la façon de le dire, ça dépend de la personne en face. On dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ben, y a des bonnes vérités qui peuvent tuer quelqu'un. Voilà. Puis il y a des mensonges qui peuvent tuer quelqu'un. Il y a peut-être des mensonges qui peuvent faire vivre. Donc la vie est compliquée. Bon, en moyenne, quand même, la vérité est plutôt mieux que le mensonge.
Quoi ? Les pieux mensonges.
Il y a des pieux mensonges. Hein. Donc, Suyon, elle est spécialiste de, du traité de Kant sur le mensonge, voilà. Sur le prétendu droit de mentir. Kant a écrit un livre là-dessus, non, sur le, ça s'appelle comment le son livre, le, sur le prétendu droit de mentir.
C'est pour lui, il n'y a pas de droit de mentir.
Ah non, lui, c'est... Voilà, c'est
voilà, on nous en a parlé un jour.
Impératif catégorique, on ne ment jamais, sinon on se débrouille pour faire un demi... caché un peu, mais... Donc ça, c'est très discutable, effectivement, c'est un lieu de réflexion sur l'éthique et la morale. Bon, c'est pas la question. En tout cas, nous, on peut recevoir des signes, on est appelé à discerner les signes, on peut recevoir la parole, on peut devenir ange en témoignant, et on peut aussi, donc il témoigne de deux choses, il témoigne de la parole de Dieu, on va voir qu'il la reçoit directement, par des visions, par l'esprit, par l'audition, et puis aussi le témoignage de Jésus-Christ. Alors quand on dit Jésus-Christ, bon, je peux quand même le rappeler, Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus, c'est... Vous demandez dans la rue, vous rigolez, mais vous demandez dans la rue, je pense que 98% des gens, vous leur dites quel est le nom de famille de Jésus, ils vous disent c'est Christ.
C'est Monsieur Christ.
Voilà. Alors que Christ, bah, c'est pareil, c'est une fonction en fait. C'est une fonction. Sauf que lui, il a une fonction avec un CH majuscule. Nous, on a un CH minuscule. Ça veut dire qu'a reçu l'onction pour être serviteur de Dieu. Voilà. Alors on va le voir, puisqu'on fait de nous des prêtres, vous voyez, au verset 6, au sommet de la deuxième colonne, il a fait de nous un royaume de prêtres. De prêtres pour son Dieu et Père. Puisqu'on est prêtre, c'est qu'on est Christ, en fait. Le prêtre, il reçoit une onction. Donc littéralement, on est Christ, puisqu'on est fait prêtre. C'est ce qu'on dit pour le baptême de quelqu'un. Il est à la fois prêtre, prophète et roi. Donc, prophète, on reçoit l'esprit. Si on reçoit l'esprit, c'est qu'on a ce don direct de la parole, de la vision, comme Jean. On est prêtre, on est fait prêtre, pour, on est digne de pas simplement recevoir quelque chose qui vient de Dieu, on est digne d'en faire monter des prières vers Dieu, de réconcilier les gens avec Dieu, de dire le pardon. Et puis on est roi, on est appelé à avoir des gestes pour gouverner le monde, améliorer le monde. Donc là, en tout cas, il met prêtre et on va voir que prophète, c'est quelque chose qui apparaît souvent, puisque là, c'est quand même beaucoup pour transmettre, pour dire ce qui arrive, en fait. Ce qui est en train d'arriver, c'est ça le prophète. Donc on en était au verset 2, là, quel témoignage de la parole de Dieu et du témoignage finalement de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Vous voyez, la parole, le témoignage sur la parole de Dieu, ben, c'est quelque chose qu'il voit à travers des signes, qu'il entend, et puis le Christ, il l'a vu, et tout ça, donc c'est de la parole qui se voit, voilà. Alors ensuite, au verset 3, heureux le lisant, celui qui lit, vous voyez, c'est pas simplement celui qui a lu, c'est un participe présent, donc c'est un état de lire. Donc c'est pour ça que, bon, il faut lire finalement sans cesse. On n'a pas lu la Bible une fois pour toutes. C'est l'état de lire et les écoutant, les paroles de la prophétie. Oui, il ne faut pas simplement les lire, il faut aussi écouter les paroles de la prophétie. Peut-être qu'effectivement, la lecture, par exemple, du témoignage de Jean, ça peut donner envie d'écouter. Écouter par nous-mêmes, écouter de nos propres oreilles ce que Dieu pourrait avoir à nous raconter de particulier. Mais c'est pareil, la lecture c'est un état, lisant, et on est un lisant, on est un écoutant. Hein, des paroles de la prophétie. Alors si on écoute la parole de la prophétie, à notre tour on devient prophète en fait. Parce qu'on a écouté nous-mêmes les paroles de la prophétie, on les reçoit de Dieu directement, on les reçoit de Jean, on les reçoit de Dieu.
Est-ce qu'on devient un prophète si on ne les retransmet pas?
Si on ne les retransmet pas, on est un prophète comme Jonas qui disait non, 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 ça me casse les pieds, puis je vais annoncer que s'ils ne se convertissent pas, Dieu va les va les écrabouiller. Bien sûr, j'ai l'habitude, Dieu va encore changer d'avis, il va pardonner. Et puis, qui c'est qui va passer pour un couillon? C'est moi. Donc Jonas, il ne veut pas. Donc vous voyez, il retient, mais il est quand même mauvais prophète. Mais il est quand même prophète. Hein, parce que prophète, ouais, c'est ça, c'est celui qui porte la parole. Hein. Il la porte.
Et pourquoi il dit que c'est. Et pourquoi, c'est en ce moment-là, le Christ il dit que c'est les droits des faux prophètes
Ben, il y en a des faux prophètes, oui. Et des faux prophètes, c'est des gens qui disent bah oui, j'ai reçu telle parole de Dieu, puis en fait, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du fond d'eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est là que ça demande de l'humilité, hein, parce que nous, on se dit j'ai l'impression que Dieu me dit ça. Bon, ben écoutez, peut-être que oui, peut-être que ça vient de quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être que ça vient de nous, on s'est fait un film. Non ? C'est pour ça, il faut se méfier quand même. Hein. Donc peut-être que c'est une bonne idée, voyez, que nous, on fasse le lien entre, ben, entre ce qui a été écrit et ce qu'on nous, on écoute. Hein. Sauf que, bon, on peut toujours dire qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Hein. Là, en tout cas, on est appelé à lire et on est appelé à écouter, à tendre l'oreille. Donc ça, on peut faire de tendre l'oreille. Ensuite, est-ce qu'on a vraiment ce qu'on a entendu, ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu? Bon, ben, il vaut mieux être prudent après. Mais en tout cas, on peut tendre l'oreille. On peut tendre l'oreille. Et c'est cette attitude-là, peut-être d'humilité, peut-être de disponibilité, qui est déjà en elle-même. Mais c'est comme, vous voyez, on est appelé à... On nous dit de nous convertir, en fait. Parce qu'on a vu ça là-haut. Hein. Non, on l'a vu sur le, au verset 12, de l'autre côté. Pour voir d'où vient la voix. C'est l'effet de la voix, c'est de nous retourner, mais on ne nous dit pas d'arriver avec nos petits pieds, après s'être retourné, à arriver jusqu'au Christ, arriver jusqu'au point oméga, c'est-à-dire à l'ultime. Non, on nous dit au moins déjà de se diriger, tourner vers. C'est déjà pas mal. Après, si on a un petit mouvement, un frémissement de mouvement, ben au moins il sera dans le bon sens, ça sera déjà ça. Et là c'est pareil, on ne nous dit pas... Vous devez absolument entendre ce que Dieu dit. Ben, au moins, on peut écouter, tendre l'oreille, et puis lire. Et peut-être, dans le dialogue entre les deux, ben, se dire, ben oui, moi j'ai entendu ça, mais oui, mais par rapport à ce que disait Jésus-Christ, par rapport à ce qu'a entendu, ce qu'a montré Jésus-Christ, par rapport à ce que dit, je ne sais pas, tel psaume... Se dire, bah, y a peut-être un problème quand même, peut-être que j'ai entendu de travers, peut-être que je me disais que ça vient de Dieu, bah, peut-être que finalement, peut-être qu'il faut que je révise ou que je continue à écouter. Voilà. Alors après, oui, d'ailleurs écoutez, si vous voulez, c'est la base du commandement qui est donné aux Juifs, hein, et que dans le chemin Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. D'ailleurs, Jésus le rappelle hein, quand il dit, il résume tout. Hein, il dit, faut, l'essentiel, c'est d'écouter le Seigneur Dieu. Le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et il rajoute de toute ton intelligence. Donc oui, on peut mettre quand même son intelligence, bien sûr, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on a entendu en écoutant, qu'est-ce qu'on lit, et pas en faire n'importe quoi. Alors les paroles de la prophétie... Et gardant, hein, au verset 3 toujours, hein, donc garder, téréo, c'est garder, le verbe garder dans la Bible, c'est un verbe qui est important, c'est garder l'alliance en fait, c'est garder ce lien d'alliance avec Dieu. Alors ça pouvait être l'alliance, une alliance du donnant-donnant, par exemple dans le Deutéronome, ça peut être une alliance plus quand même sur l'amour, l'envoi en mission avec Abraham. Mais en Jésus-Christ, c'est une alliance de j'allais dire, d'adoption, d'affection, de tendresse maternelle de Dieu. C'est ça, l'alliance, garder ça, c'est garder ce lien avec Dieu, finalement. Hein. Garder. C'est, en hébreu, c'est Zachar, comme Zacharie. Hein. Zacharie, c'est celui qui garde... Yahvé, hein, Zacharia. C'est le verbe oui, très important. C'est le contraire de garder, c'est abandonner, hein, comme Jésus sur la croix qui dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, bah, plutôt que de me garder, d'être fidèle à ton alliance, tu m'as abandonné. Alors là, Jésus, c'est ce qu'il ressent. Bon, c'est de travers, parce que c'est pas vrai que Dieu l'a abandonné, mais c'est ce qu'il ressent, donc on peut le dire. Hein. Il est encore dans la foi et dans la conversion quand il dit ça, puisqu'il se tourne vers Dieu.
Il est très humain.
Donc il est très humain, mais donc il garde encore l'alliance. Alors qu'il accuse Dieu injustement de ne pas l'avoir gardé, lui, en criant son reproche à Dieu, ben, il garde l'alliance, puisqu'il est quand même tourné vers lui, et qu'à la limite, il écoute peut-être sa réponse. Hein. En tout cas, garder, c'est ça. Ça ne veut pas dire ne pas douter, ne pas crier sa colère contre Dieu, ça ne veut pas dire... Hein, non, c'est se tourner. Garder ce lien, voilà. Et quand on se tourne, ben, on a gardé le lien. Alors, quand ils disent finalement, mais on va le voir plus loin, hein, si j'avance un peu, les choses qui ont été écrites, c'est les Écritures. Donc là, ce qui est quand même assez subversif, c'est que Jean, là c'est le verset 11, hein, donc un peu en bas de la deuxième colonne, voyez, disant, ce que tu constates, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. Donc, c'est quand même assez, c'est un peu limite subversif, si vous voulez, parce qu'à cette époque-là, la Bible, elle s'arrête à la loi, les prophètes et puis les écrits. Mais là, il est en train de dire, écris un chapitre supplémentaire à la Bible. Ben, faut déjà être gonflé, quoi, vous voyez. À bloc. Parce que, quand même, hein, c'est pas rien. C'est pas rien. Il y a une prétention ou une ambition qui est extraordinaire. Oui, allez-y, oui, bien sûr.
Écouter la parole.
Ben voilà, c'est ça, on écoute les messages qui viennent de Dieu, donc ça, et c'est voir les signes, c'est ouvrir son esprit par la prière, c'est écouter la parole de Dieu dans la lecture. On sait très bien que la Bible, c'est pas la parole de Dieu, on est d'accord, catholique comme protestant, bien sûr. La Bible n'est pas la parole de Dieu, la Bible, c'est des témoignages sur la parole de Dieu, donc dans la lecture, il faut s'ouvrir à cette écoute de quelque chose que Dieu nous enverrait directement. Il faut s'ouvrir à la venue des anges. Mais ça peut être écouter les autres aussi, vous voyez. Parce que les autres ont quelque chose d'angélique peut-être. Ils ont aussi peut-être un peu quelque chose de diabolique. Mais donc il faut écouter avec le filtre qui est... à la fois l'humour, le discernement, la bienveillance, l'intelligence, une certaine connaissance aussi, peut-être, connaissance de la vie, connaissance, expérience de Dieu, connaissance des autres écritures, pour mouliner un peu tout ça et continuer à écouter. Parce que si vous voulez, la parole de Dieu, on dit qu'elle s'écoute. Elle s'écoute si on veut, mais... Bon, alors Jeanne d'Arc a entendu une voix disant « Bout les Anglois hors de France », donc ça peut arriver peut-être. Hein. Mais souvent, c'est pas comme ça des sons, si vous voulez. C'est à l'intérieur de soi-même une idée, une conscience tout d'un coup qui se dit « Tiens, si je faisais ça, ce serait peut-être une bonne idée. Est-ce que par hasard, c'est pas quelque chose qui me viendrait de Dieu ?» Alors c'est pas que Dieu, il nous a tendu une table de pierre avec une main, si vous voulez, qui est une table de pierre. Oh, une table de pierre écrite par la main de Dieu. Ou une table d'or, tant qu'à faire. Parce que comme ça, ça ferait double usage. On pourrait aussi avoir des bons secrets, puis après on peut aussi avoir les moyens de réaliser ses idées. Ce serait pas mal, hein, tant qu'à faire, une table d'or. Mais oui, donc en fait, la parole de Dieu, c'est ça s'écoute, puis ensuite, ben, faut essayer de discerner si ça vient de Dieu ou pas, voilà, ou plutôt faire le tri entre ce qu'on a entendu, ben, ce qui vient de Dieu et ce qui mériterait peut-être d'être affiné encore, hein. Parce que la parole, elle se voit, voilà, c'est ça. Donc à la limite, c'est une parole acte. Quand Dieu parle, il crée. Que la lumière soit, la lumière fut crac. Donc il faut discerner cette mise en ordre, ces dons de sens, ces idées, cette action, cette transformation. Si on dit que Dieu crée par sa parole, c'est pour dire, ben voilà, que c'est une action qui est proposée dans le dialogue, c'est pas une action qui est imposée, justement. Alors, il est écrit avec un effet, et en effet, le temps est proche, hein, kairos engus, c'est le temps est proche, hein, et voilà, ça arrive très vite, c'est le temps est proche. Donc, vous voyez, ça montre bien que l'Apocalypse, ça ne parle pas du temps futur, sinon ça ferait 2000 ans déjà que des chrétiens se disent le temps est proche, donc on les a un peu bidonnés, si vous voulez, parce que 2000 ans, ça fait quasiment, ça fait quoi, 100 générations?
Oh ben, près de chez moi, j'ai ceux du 7e jour, ils avaient annoncé ça pour le 20e siècle, je crois.
C'était oui, leur prophète, ils avaient annoncé la fin des temps pour je ne sais plus quand, 1938 ou 1800, je ne sais plus combien, et puis ce n'est pas venu. Alors ils ont attendu.
Ils sont toujours là.
Il y en a un paquet qui était désespéré, ça a fait des drames parce qu'ils avaient vendu leurs champs, comme dans l'Apocalypse, ils avaient tout vendu, arrêté de travailler parce que la fin du temps allait venir, puis ce n'est pas venu, donc ça a fait des drames. Il y a eu pas mal de morts quand même, hein, dans leur église, le 7e jour. Ben oui.
Des suicides ?
Ben, des drames, des pertes, parce que si vous voulez, quand vous vendez tout ce que vous avez pour rester, attendre le royaume de Dieu qui vient tout de suite, parce que le prophète avait donné la date, hein, vous voyez. Donc ce jour-là, ils étaient avec la famille, et puis ils attendaient le Messie. Bon, c'est pas venu aujourd'hui, ils disent, bon, c'est comme le train, le TGV, on attend toujours. Hein. Ils disent, bon, il va venir quand même un jour. Hein. On attend 1 heure, 2 heures, 5 heures, il vient le lendemain, non, toujours pas, 8 jours après, bon...
À 200 mètres de chez moi, ils attendent toujours. Hein. Il y a une église à 200 mètres de chez moi.
Donc les adventistes, je crois qu'ils ont abandonné. Voilà, ils attendent toujours la fin des temps, mais il n'y a plus de date, je crois. Hein. C'est quand même plus prudent, c'est vrai. Je rigole. Mais si vous voulez, ça vient vite. C'est-à-dire que voilà, Dieu espère que ça viendra vite en nous. C'est-à-dire qu'on va se laisser transformer par la parole. C'est pour aujourd'hui, puis encore un peu demain, puis encore un peu demain. C'est un cheminement, si vous voulez. Hein. Le temps est proche, bah oui, c'est maintenant. Donc Jean aux 7 églises. Alors là, il y a plein de 7 partout, vous voyez, hein, il y a 7 églises, au verset 4, il y a le 7 esprits, et puis à la fin du chapitre, hein, il y a plein de 7 aussi, il y a les 7 chandeliers, les 7 étoiles, ça revient à la fin du chapitre, au verset 20, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être...
6, 7.
C'est 7, nombre 7. Hein. Donc le 7, si vous voulez, ben, ça on connaît, hein, c'est le chiffre de la bénédiction, c'est-à-dire que, ou de l'accomplissement final, donc qui se termine comme une cerise sur le gâteau, plop, c'est la bénédiction. Le monde, selon la Genèse, a été créé en 6 jours, le monde matériel, et à la fin du 6e jour, donc à l'aube du 7e, il y a le don de la bénédiction qui est un peu comme, je ne sais pas moi, on fabrique une voiture, elle est toute prête, Ferrari, rutilante, rouge. C'est rouge une Ferrari. Et ben, on appuie sur le démarreur, hein, et à ce moment-là, on y va. Donc c'est ça la bénédiction. Et donc le 7, c'est le... Voilà, tout est bon, tout est prêt, et on y va. Et parce que le 7, si vous voulez, le chiffre 4, c'est en général le monde, comme les 4 points cardinaux. Et le 3, c'est le chiffre de Dieu, parce que c'est dans toutes les civilisations du monde, le triangle étant la seule figure géométrique stable, pour des raisons très concrètes. C'est toujours le chiffre de l'éternité, le chiffre de Dieu. C'est pas parce que c'est la Trinité, à cette époque-là, la Trinité n'était pas inventée, bien entendu, il faut attendre encore... pratiquement un siècle pour que l'idée même apparaisse de Trinité quand Jean écrit ça. Mais le chiffre 7 dans toutes les civilisations du Moyen-Orient, c'est le chiffre de la plénitude matérielle et spirituelle, le chiffre donc de la création bénie. Donc c'est pour ça qu'il y a cette église. Donc quand il y a un chiffre rond comme ça, comme 7, dans la Bible... C'est pas un nombre de quantité, ça exprime une qualité, en fait. Ça veut pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que les 7 églises, l'église est bénédiction. Voilà, c'est une bénédiction envoyée vers ces églises. Alors, il donne la liste de 7 églises, mais à l'époque, il y en avait d'autres. Il donne, c'est un échantillon qui vient manifester une plénitude disant que l'Église, c'est-à-dire la communauté des personnes qui sont appelées par Dieu, hein, parce que Ecclesia, c'est ça, le ek, petit epsilon, qui, là, le k, c'est en de, hors d'eux, puis Ecclesia, c'est appelé, kaleo. Donc c'est ceux qui sont, la communauté de ceux qui sont appelés par Dieu.
Alors c'est où ça, Ecclesia?
C'est au début du verset 4, Jean aux sept églises. Donc sept, c'est hepta. Ah, voilà, hein? On connaît hepta comme un heptagone. Église. Donc vous voyez, c'est le verbe de la vocation. C'est la communauté des personnes qui sont qui reçoivent la vocation de se mettre en route. Et il y en a sept, c'est-à-dire que ces communautés, ces groupes de personnes qui se réunissent avec le sentiment d'être appelés par Dieu, c'est une bénédiction. Voilà. Alors en Asie, bon, c'était le lieu d'action donc, de Jean, hein, qui était par là. Donc j'allais dire la Turquie, je ne sais pas exactement quel pays c'est maintenant, la Turquie, le Liban peut-être, non. Je ne suis pas professionnel de la géopolitique dans ces pays-là. C'est, heureusement pour moi, parce que ça peut donner des cauchemars la nuit, mais...
Ça change tous les jours.
Donc grâce à vous et paix de la part... Donc la grâce et la paix, oui, c'est voilà, des belles notions fondamentales. On pourrait dire la grâce et la vérité, on a parfois ce couple, hein, la grâce et la fidélité. La grâce, c'est l'amour sans condition de Dieu. Voilà, c'est quand même la base du truc. Et la paix, c'est la paix intérieure, c'est la paix entre nous, mais c'est plus que ça. La paix, le shalom hébreu, c'est le fait d'être... d'avoir atteint une sorte de plénitude, effectivement, d'évolution, qui fait que on est arrivé au but. Hein. Donc c'est la vocation, c'est, voilà, la grâce finalement, c'est peut-être le point premier, et puis la paix, c'est l'aboutissement espéré. Si je dis ça, c'est parce que on va voir plus loin. Il dit je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha c'est la grâce et l'oméga c'est la paix, dans un sens. Donc on peut, fort de la grâce, ça nous donne une certaine paix, ça nous donne envie peut-être de construire, d'être artisan de paix dans l'évolution de l'humanité, du monde, dans la construction du monde, de l'humanité, de notre humanité. Alors ça c'est très beau, de la part de l'étang au on, kai au n, de celui qui était Kaio Erkomenos, le venant. Donc ça, c'est une très belle traduction, si vous voulez, lumineuse, j'allais dire.
On dirait Heidegger.
Oui, les temps. Moi, quand je dis je suis dans les temps, je pense plutôt au canard, si vous voulez, sur la mare. Mais je ne suis pas tellement heideggerien. Mais... Donc, au Aune, c'est effectivement ce qui est dans le buisson ardent, hein, la révélation du tétragramme, la traduction du nom de Dieu, Yahvé, traduit par l'Éternel, c'est Egoemi au Aune. C'est le nom de Dieu, au Aune, dans les Septantes. Hein, c'est comme ça. C'est celui qui est, l'étant. Celui qui était... Et celui qui vient, quoi. C'est celui qui est le venant, oui. Donc, vous voyez, ça traduit bien ce Yahvé, dont on ne sait pas trop comment traduire, qui est sur la racine du verbe être, mais qui est à un temps un peu bizarre, qui est à la fois, donc, le présent, un présent duratif, l'étant, l'état de l'être, quoi, l'être éternel, hein. Celui qui était, donc qui est dans le passé, et celui qui est dans le futur, au Erkomenos, celui qui est dans le qui vient encore. Donc ça, c'est beau aussi pour parler de ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, il doit venir, donc c'est à ça qu'on s'ouvre, à ce Dieu qui était depuis toujours, qui est là, autour de nous, entre nous, en nous, et qui vient encore, pour s'ouvrir à cette venue. Donc ça, je trouve que c'est très très beau, et c'est une belle définition de... Une belle définition, finalement, de Dieu. Hein. C'est une assez belle, je trouve, définition de Dieu. Alors, il y a une autre définition un peu plus loin, Il y a d'autres définitions de Dieu. On peut le voir au verset 8, hein, de la page à droite, vous voyez. C'est Dieu qui se présente. Hein. « Moi, je suis l'alpha et l'oméga. » Donc, on dirait aujourd'hui, pour nous, le A et le Z. Donc, l'origine, le début, la source de quelque chose. Et puis, l'oméga, le Z, c'est la finalité. Donc, si c'est la finalité, c'est grand pour nous. C'est-à-dire qu'on a pour objectif, comme finalité, l'être de Dieu lui-même. On a cette ambition infinie de monter à Dieu, dans un sens, ou d'être élevé à Dieu. Oui. Dit le Seigneur Dieu.
C'est donc, ce que a retenu Eckhart, enfin, dans les livres qu'il n'a pas écrits.
Il a écrit.
Hein, non, seul, dans celui qu'il n'a pas écrit.
Ah, celui qu'il n'a pas écrit.
La fille qu'il avait à Strasbourg. Mmh. Il devient Dieu, mais il n'est pas de lui. Mmh. C'est pour ça qu'il était condamné.
Ah, zut, le pauvre. Bon, il s'est un peu défendu quand même. Finalement, maintenant, il est quand même reconnu comme docteur.
C'était ça, c'était vraiment sa sur doctrine, la devenir Dieu.
Devenir Dieu, ben oui, c'est ça. Enfin, sauf qu'on ne devient pas de Dieu par nos petits biceps nous-mêmes, si vous voulez. Comme on le retrouverait peut-être plus dans le bouddhisme, par exemple. L'idée, par la méditation, d'arriver à l'illumination.
Ben, c'est très proche à Eckhart, c'est ça.
Ben, sauf que c'est quand même une ouverture à cet ultime, qui à cet indicible, si vous voulez, qui nous élève. Donc, dans l'objectif, la finalité, il y a bien d'aller vers un point oméga, sauf que c'est vrai que nous, on a un point alpha, c'est-à-dire qu'on a une source auquel on s'ouvre, qu'on écoute, qu'on reçoit, qui nous amène à l'oméga, finalement. Donc, le Seigneur Dieu, c'est la deuxième définition, qui est très classique, hein. Donc c'est Dieu est à la fois Seigneur, Kurios. Alors on dirait c'est plutôt la source de l'être, hein. C'est, voilà. Et Otheos, c'est Dieu, c'est le Dieu créateur. Donc c'est voilà, on dirait Yahvé, Elohim, hein. Dans l'hébreu par exemple. Hein. C'est vraiment ça vient directement de l'hébreu. Donc pareil, l'étant, celui qui était et le venant. C'est première définition, c'est alpha oméga. Deuxième, c'est Seigneur Dieu. Une définition double, paradoxale, un peu dialectique. Après, le étant, celui qui était et le venant, c'est troisième définition. Et quatrième, le Tout-Puissant. Alors ça, c'est important aussi de noter qu'il n'y a que, finalement, dans la fin de l'histoire, hein, que Dieu est appelé Tout-Puissant dans la Bible. Dieu n'est pas tout-puissant dans le présent. Il est venant comme tout-puissant. Dans le présent, il n'est pas tout-puissant. Quand il y a un enfant meurt de leucémie dans des souffrances atroces, quoi ? Ça en fait des dégâts. Ça en fait plus d'athées que tous les athées du monde. Hein. Donc Dieu n'est pas tout-puissant, mais la toute-puissance, c'est le point oméga. C'est-à-dire que toute chose soit réconciliée avec Dieu, puis qu'on n'ait plus mal aux dents, et puis que nos lacets de souliers ne se cassent pas quand on est pressé d'aller prendre le métro, qu'il n'y ait plus d'horribles cancers qui tuent des gens adorables, et les salauds aussi d'ailleurs, c'est pas la peine non plus qu'ils meurent, mais plutôt qu'ils se convertissent et qu'ils vivent, comme dit l'Écriture. Enfin bref, pour une fois, on a vraiment le mot tout-puissant, Pantocrator. Mais c'est en tant que venant qu'il est Pantocrator. C'est le point oméga, c'est l'ultime, c'est ce qui est en train de venir avec une puissance de Dieu qui commence à embellir le monde, mais il y a du boulot. C'est pour ça que justement on reçoit une vocation, c'est justement pour ça qu'on est envoyé vers d'autres, c'est pour ça que le Christ est venu, c'est pour que tout cela peut-être progresse, voilà. Alors pour que ça progresse, j'en reviens donc encore à mon verset 4, on revient donc de la part de l'étang, de celui qui était et du venant, et de la part des sept esprits, donc vous voyez, un deuxième canal de la révélation, ça peut être voilà, directement de Dieu, ça peut être par les esprits, donc l'esprit c'est l'esprit de Dieu, c'est à la fois c'est Dieu lui-même, mais c'est une bénédiction, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, si vous voulez l'esprit. Comme un souffle, parce que pneuma, c'est esprit, ça fait penser à une sorte de fantôme, en fait, non ? On ne sait pas ce que ça veut dire.
Pour moi, ça fait penser à anima et au ki. Voilà. Ça fait penser au ki japonais, pour moi. Ah.
Mais pneuma, c'est le souffle, donc c'est quelque chose qui rentre dans nos narines, qui rentre à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous donne de l'énergie, qui nous donne la vie. Si on est privé du souffle,
c'est
on meurt.
Anima qui nous anime, l'anima en latin.
Qui nous anime, voilà, c'est ça. Oui, qui nous donne, c'est le souffle. Hein. En même temps, c'est comme une brise légère sur notre joue, qui est offerte par grâce à quiconque le désire, finalement, les souffles. Hein, d'eux, hein. Donc, qui, devant son trône, qui sont devant son trône, alors le trône de gloire de Dieu, voilà, c'est l'endroit de sa puissance, hein. Sauf que nous, on est en relation avec le trône par l'esprit, donc c'est quand même plus faible qu'un trône avec un sceptre, avec une toute puissance, etc. Donc entre les deux, il y a cette souplesse du souffle, cette faiblesse du souffle peut-être aussi, et non pas un trône de toute puissance justement qui écrase. Nous, on est en contact avec l'esprit, avec ce souffle, avec cette parole, donc avec une façon douce hein, finalement. De nous proposer quelque chose et non pas dans la toute-puissance. Alors ensuite, voilà, il y a Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, il a quatre, lui, alors on a vu différentes définitions de Dieu. Là, de Jésus-Christ, il y a plusieurs définitions. Il y a Jésus, bon, donc c'est Monsieur Jésus, d'accord. Première définition, c'est Christ. Donc Christ... Il pourrait y avoir « au Christos », mais Jésus le Christ, ça se trouve souvent. Là, il est collé, donc c'est Christ, c'est vraiment sa nature dans un sens, oui. Mais ensuite, il y a quatre fonctions. Contrairement à la traduction où ils ne nous en mettent que trois, il est le témoin. Donc là, il y a marqué « martyr », vous voyez, donc c'est venu en français, le grec s'est décalqué en français avec le mot « martyr ». C'est un témoin, il témoigne d'abord, donc il transmet une parole, mais une parole qu'il a vue, une parole qu'il a expérimentée. Ce n'est pas une récitation, c'est un témoignage par sa propre vie, si vous voulez. Hein. Le fidèle. Fidèle, c'est le mot bah, de la foi et de la fidélité, c'est les deux. Il est fidèle à Dieu, fidèle aux hommes, fidèle à lui-même, fidèle à sa nature, fidèle à sa vocation, fidèle à... C'est donc ses deuxièmes caractéristiques, hein. Le premier-né d'entre les morts. Ben, ça, c'est assez beau. C'est-à-dire qu'il est ressuscité, mais s'il est premier-né, c'est que nous aussi. Et donc, on est appelé à ressusciter aujourd'hui, puisque ça vient très vite, ça vient maintenant. C'est pour ressusciter maintenant des morts, pour que nous aussi, on sorte de l'alpha, on reçoive l'alpha qui nous mène vers l'oméga, donc qui nous ressuscite de la mort. Et le prince des rois de la terre... Donc, il n'est pas roi des rois, vous voyez. C'est Dieu qui est roi des rois. Lui, il est prince des rois. Je ne veux pas critiquer, mais c'est un poil en dessous.
L'archonte, archeia, archonte dans la cité grecque, c'était un rôle provisoire, comme dans tous les rôles dans la cité grecque. C'était pape, archonte à vie.
Oui, puis arché, c'est la tête. Voilà, on dit que le Christ est la tête. On retrouve ça souvent chez Paul. La tête, c'est aussi le commencement, c'est aussi... un peu l'enfance, un peu le début de la Genèse, c'est un peu le... Donc, c'est ça qu'il est pour nous. Hein. Il est aussi le commencement des rois de la terre que nous sommes, dans un sens. Hein. Je vous disais, on est prêtre, on est prophète et on est roi, voilà. Mais Jésus, il est prince des rois. Donc, vous voyez, là, le Christ, Jésus-Christ, il a quatre fonctions, s'il y en a quatre. Quand il y a des listes comme ça, le nombre est souvent très signifiant. Les gens, quand ils lisent l'écriture, dès qu'il y a une liste, ils comptent sur leurs doigts pour voir si c'est 3, si c'est 4, si c'est 5, si c'est 6, si c'est 7. Parce que c'est pareil, le nombre d'occurrences dans la liste, ça dit un peu la qualité de ce qui est dit. Donc Jésus, il est Jésus, il est Christ, c'est sa nature, et il a quatre fonctions. Donc il est humain, en fait. C'est une fonction humaine. Mais il est porteur du sept. Hein. Il est source des sept églises. Il est source des sept esprits. Vous voyez. Il est quatre. Il est homme, mais il est porteur de Dieu. Il apporte Dieu. Il est témoin de Dieu. Il est bénédiction en ce sens-là. C'est que. Mais là, vous voyez, à cette époque-là, Jésus est presque Dieu, parce qu'il en témoigne, vous voyez, mais il est plutôt un homme portant Dieu que Dieu. Il est, là, il y a quatre fonctions, et pas trois. Et puis, il est prince, et il n'est pas roi, quand même. À mon avis. Après, c'est en train de venir, si vous voulez, cette déification du Christ. Parce qu'à la limite, je crois que l'Évangile, il met Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, par l'Esprit Saint. Du coup, ça fait un Dieu qui est... Le ciel est vide, dans un sens, vous voyez. Si on met Dieu, le royaume de Dieu est au milieu de vous, en vous et dans les relations entre vous. Mais du coup, si le royaume de Dieu est là, bah, du coup, le ciel, le panthéon est vide. Du coup, les gens, ils trouvent que ça fait un peu vide, quoi. Donc, ils disent, bah, il faut qu'on accroche quelque chose, quoi, vous voyez, au plafond. C'est comme s'il y a un plafond avec un beau plafond orné, puis un anneau au plafond. On dit, bah, faut que je mette un lustre. Là, c'est pareil. On a démonté le lustre qui était Dieu. On a démonté déjà tous les dieux qui existaient, le dieu de la guerre, le dieu de la lune, du soleil. On a démonté tout ça, craque. Et l'Évangile, en plus, il nous met Dieu en nous. Bah, du coup, on relève les yeux, on dit, mince, ça fait un peu vide, ce truc-là, quand même. Donc, craque, on a accroché Jésus-Christ en haut pour faire, pour décorer un peu, si vous voulez. Je rigole un peu, mais à mon avis, c'est un peu la psychologie. Effectivement, il y a une divinisation de l'homme, hein, quand même, qui est proposée. Et donc, le Christ, il est divinisé, mais il n'est pas Dieu. Voilà. Donc ensuite, on nous dit un peu ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous. Il nous a délié les liens de la mort, du péché. Vous voyez, délié des liens de la mort et du péché, c'est pas simplement effacer nos fautes. Hein. C'est libérer de nos chaînes. Libérer de ce qui nous enchaînait dans le péché, dans la mort. Donc c'est une libération de notre être pour se mettre en route, pour se mettre en mouvement. C'est pas une libération abstraite, dans un grand registre quelque part. C'est plutôt une libération comme la Pâque. Hein. Ça fait référence à la Pâque juive, ça, avec le sang qui est mis sur le montant de la porte. L'agneau, on verra après, il est question de l'agneau hein, dans l'Apocalypse, beaucoup. Donc ça fait référence à la Pâque. Donc c'est une libération, non pas d'Égypte, mais du péché, de la mort, d'une ancienne façon d'être, peut-être, pour entrer... pour être qui nous a fait de nous royaume de prêtres. Donc pour faire de nous des prêtres, c'est-à-dire capables d'entrer en relation directement avec Dieu sans intermédiaire. Voilà. Mais d'ailleurs les références après au verset 7, voici il vient sur des nuées... ça fait référence à l'Exode, tout ça, vous comprenez. C'est vraiment des références de l'Exode qui vient dire la nuée, c'est la Shekinah, c'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui donne la révélation, qui nous accompagne dans ce cheminement vers la vie. Donc c'est ça que manifeste Christ selon Jean. Bon, mais là, il reprend les images de l'Exode pour exprimer à des Juifs qui étaient à l'habitude, si vous voulez, de ce langage. Reprenant les codes de l'Ancien Testament, enfin de la Bible hébraïque, pour exprimer cette dynamique que Dieu nous offre en Christ pour nous mettre en route maintenant et entrer maintenant dans son royaume, qui est donc un royaume spirituel, qui est donc un royaume à vivre maintenant. Est-ce qu'il y aurait des questions, sinon, sur un peu ce texte ? Avant qu'on vous libère hein, pour reprendre.
Quelque part, c'est l'introduction à l'Apocalypse. Ensuite, il va se passer des tas de choses.
Ben oui.
Et en particulier, il mangera le livre et tout ça.
Et oui.
Donc, ça nous met un peu en appétit.
Ça met en appétit.
Un livre à manger, quoi.
Voilà, il y a un livre à manger. Le rouleau de la parole qui doit être mangé, voilà. Voilà. Ben alors cette année, justement, il y a un groupe biblique avec Patrice Rollin, donc un spécialiste de la Bible, qui fera un groupe biblique les mardis après-midi, une fois par mois. Ça commence en octobre, je crois. Il y a les dates sur la table ou sur le site internet hein, ou dans le bulletin que vous pouvez recevoir. Il y a un autre groupe biblique qui est commun avec Saint-Eustache à côté, la paroisse catholique voisine. Donc c'est le soir, donc c'est plus difficile. Bon, peut-être, bon, en général, c'est quand même sur le site internet aussi, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
Et c'est sur quel thème, avec Saint-Eustache ?
Donc avec Saint-Eustache, on va se le préparer demain, en fait, le thème, mais ça sera quand même, globalement, ça sera un peu rapport à ça, des choses symboliques, en fait, des choses utiles et symboliques, des choses de la vie courante qui sont dans les paroles de la Bible, dans les Écritures, et qui sont symboliques. Et c'est une façon peut-être de mieux comprendre ces codes, ces images qui sont dans la Bible pour vous permettre de plus facilement, en chemin faisant dans votre lecture, d'en avoir votre propre intelligence. Parce qu'on ne peut pas traduire facilement ce que veut dire la Bible, mais on peut apprendre à la lire, voilà, pour se mettre chacun ensuite à l'écoute de ce que Dieu a à vous dire directement. Mais pour ça, il faut en apprendre un peu l'alphabet, l'algèbre, la grammaire. Ben, c'est ce qu'on vous proposera un petit peu à travers ces études bibliques, encore une fois, qui visent plus à vous donner les moyens de lire par vous-même les Écritures que de vous dire la sainte vérité qui vient de Dieu seul.
Je ne sais pas si on peut vraiment être certain de ce qui a voulu être dit par ceux qui ont écrit les textes.
Ben oui,
et
ça,
est-ce qu'on ne peut pas se dire, comme on dit à propos de l'art, c'est Duchamp dit, c'est le regardeur qui fait aussi le tableau.
Exactement.
Est-ce que ce n'est pas nous, les lecteurs, qui faisons chacun, qui recevons chacun du texte ce dont nous avons besoin?
Mais c'est fait pour.
Et donc, pas la même chose que notre voisin.
C'est fait pour.
Qui n'est pas hérétique pour autant.
C'est fait pour. C'est ce que vous disiez, il faut manger le rouleau de la parole. C'est-à-dire qu'il faut le... Il faut le prendre, il faut le mâchouiller, le déconstruire dans sa bouche, le ruminer, pour que ça nous donne une énergie à nous-mêmes. Mais personne ne peut le manger à notre place.
Ah oui.
Vous voyez ? Donc c'est un peu l'idée quand même de l'écriture, c'est qu'elle est faite pour être mangée, pas pour être apprise ou récitée. Elle est faite pour être ruminée, si vous voulez, dans une lecture à haute voix, personnelle, intime, et que ça soit... Bon, un miroir peut-être pour notre âme aussi, c'est-à-dire qu'on s'y reconnaisse soi-même, qu'on voit qui on est soi-même. On peut voir la vie, découvrir le monde, peut-être sentir une vocation, peut-être sentir qu'est-ce qu'on a envie de faire, d'être, qu'est-ce que Dieu nous propose, qu'est-ce que Dieu nous offre. Mais ça, personne ne peut le lire à notre place, le mâchouiller à notre place et s'en nourrir à notre place. Donc vous avez raison, l'objectif... c'est de lire pour écouter soi-même. Voilà.